c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre commence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, nouvelle tension au Burkina Faso entre la garde présidentielle et le Premier ministre. Arrestation de membres présumés de Boko Haram au Tchad. Au Niger, Areva va financer un projet de développement local. Au Mali, le procureur général veut une réforme en profondeur de la justice et nous ferons un détour par Gao en cette période de Ramadan. Rubrique santé, Ebola fait son retour au Libéria. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus aujourd'hui. Restez avec nous. Nouvelle tension au Burkina Faso entre le Premier ministre Isaac Zida et le RSP, la garde présidentielle. Après des rumeurs de coup d'État, trois officiers ont été convoqués, déclenchant la colère de soldats du RSP qui ont alors tiré en l'air pendant plusieurs minutes en ce début de semaine. Faut-il s'inquiéter de ces sautes d'humeur du service d'élite de protection de la présidence? Élément d'analyse avec le rédacteur en chef du quotidien L'Événement, Newton Ahmed Barry.
Actuellement, il y a une médiation qui est en train d'être menée par l'ancien chef d'État burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo, en accord avec le chef d'État de la transition Michel Kafando, autour évidemment du différend qui oppose le RSP, donc le régiment de sécurité présidentielle, et le Premier ministre Zida. À la situation actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Depuis deux jours, il y a eu des rumeurs d'abord dans les premiers temps disant que le régiment voulait attenter à la vie du Premier ministre qui était en voyage officiel en Chine et que l'attentat devait se perpétrer à son retour. Évidemment, le RSP a démenti n'avoir jamais eu cette intention, mais il se trouve quand même que le 28, quand l'avion du Premier ministre atterrit, il n'atterrit pas à l'aéroport international, mais dans un camp militaire, c'est-à-dire à la base aérienne. Et donc, c'est là où le problème commence, parce que le lendemain, des officiers du régiment sont convoqués par la gendarmerie, et ce qui met la troupe en émoi. Leurs camarades de la troupe se fâchent.
Est-ce que vous pensez que ça pourrait coûter son poste de Premier ministre à Isaac Zida?
Aujourd'hui, le RSP met sérieusement en balance, évidemment, le poste de Premier ministre de Zida. Il revendique deux choses importantes en disant d'abord qu'il ne veut plus des militaires au niveau de la gouvernance de la transition. Et donc, Zida devrait démissionner et avec lui, tous les militaires qui sont au niveau du gouvernement. Il semble que pour eux, c'est la solution à la crise actuelle.
Et le retour sur le devant de la scène de l'ancien président Ouédraogo, qu'en pensez-vous?
Bon, évidemment, c'est un personnage qui est beaucoup sollicité en situation de crise. En février, c'était lui également qui avait été sollicité pour essayer d'arbitrer le différend entre le RSP et Zida. Cette fois encore, c'est lui qui est là. Évidemment, je pense que comme c'est un ancien militaire, donc un officier supérieur à la retraite, probablement que les éléments l'écoutent.
Selon votre analyse, est-ce que la situation pourrait dégénérer?
Il n'est pas exclu qu'elle dégénère si une solution n'est pas trouvée dans les jours à venir, très rapidement d'ailleurs, parce que les éléments du RSP sont dans une nervosité qui peut conduire à tous les dérapages possibles. D'ailleurs, ce matin, ils ont fait la ronde d'un certain nombre de médias en disant très clairement qu'ils allaient procéder à l'arrestation du Premier ministre parce qu'il s'était illicitement enrichi. Lui est le ministre de l'administration territoriale qui se trouve aussi être un militaire, un colonel en l'occurrence.
Newton Ahmed Barry, rédacteur en chef du quotidien L'Événement.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya, et Fada.
Au Tchad, près de 70 membres présumés de Boko Haram, dont un chef, sont maintenant entre les mains des autorités tchadiennes, deux semaines après le double attentat sans précédent de N'Djamena. La dernière arrestation fait suite à une opération de la police tchadienne contre des hommes du groupe islamiste nigérian opérant dans la capitale du Tchad. Le gouvernement tchadien, qui bénéficie du soutien d'enquêteurs américains du FBI, se dit optimiste quant au démantèlement du réseau de Boko Haram dans le pays. Au micro de Jacques Aristide, écoutez le ministre tchadien de la Justice, Mahamat Issa Alikimi.
Nous sommes totalement confiants et que par conséquent, nous sommes sur les bonnes pistes et nous y travaillons jour et nuit. Et la plupart, c'est un réseau. La personne qu'on cherchait, nous l'avons identifié depuis longtemps. C'est les recherches qui nous ont abouti à l'arrêter. D'ailleurs, le procureur avait communiqué sur cette machine. Nous avons aujourd'hui presque 70 personnes qui sont suspectées, impliqués dans les attentats du 15 juin dernier.
Mais en attendant le démantèlement total de ce réseau, craignez-vous d'autres attaques?
Nous sommes sur non-garde et le risque zéro n'existe pas en matière de terrorisme. Les pays les plus dotés de moyens matériels sophistiqués sont frappés. Donc le risque zéro n'existe pas. C'est que nous avons donné un coup de dire à cette organisation.
Nous apprenons que des enquêteurs américains, FBI notamment, sont arrivés dans la capitale. Pouvez-vous nous en parler?
Absolument. Ils sont arrivés, ils sont répartis. Ils sont arrivés juste après le 15 juin. Ils nous ont appuyés sur l'identification d'explosifs et les gilets. Tout ce qu'ils nous ont dit s'est avéré aujourd'hui vrai. Et donc, ils ont travaillé sur la nature d'explosifs, les modes opératoires. Et donc, les doubles attentats, c'est le même engin explosif et les modes opératoires, c'est des explosifs qui sont artisanaux. Et même les gilets, nous ont parlé des gilets noirs et aujourd'hui, effectivement, on avait découvert que des gilets noirs. C'est les mêmes cellules.
Donc c'est une aide américaine qui va pouvoir vous aider dans votre enquête?
Absolument, absolument. C'est une aide américaine qui nous a aidés dans notre enquête.
Le ministre tchadien de la Justice, Mahamat Issa Alikimi, joint à N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Et nous reparlons d'Areva au Niger, longtemps accusé de ne pas contribuer par des actions concrètes au développement du pays, en particulier dans la région dans laquelle il exploite l'uranium depuis plus de 40 ans. Le géant français du nucléaire vient de signer une convention de financement d'un projet de développement local d'environ 12 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Le financement de ce projet est l'un des engagements pris par Areva lors de la signature de l'accord de partenariat stratégique avec le gouvernement nigérien en mai 2014, accord qui sanctionnait les longs mois de discussions entre les deux parties pour le renouvellement des conventions minières qui les lient. Ibrahim Kourmo est le directeur de la responsabilité sociétale d'Areva Mine Niger.
C'est un total de 11,4 milliards sur un projet d'irrigation dans la vallée de l'Aïr, le Tamesna et donc l'Irazer. Donc il y aura des aménagements hydro-agricoles, il y aura également des puits pastoraux. Areva a toujours été donc un partenaire d'État du Niger. De tout temps, Areva et les sociétés dans lesquelles elle opère au Niger ont toujours contribué dans le cadre du développement local.
Le gouvernement nigérien vise un double objectif à travers l'exécution de ce projet, selon le ministre du Plan, Amadou Boubacar Cissé.
C'est un geste remarquable qui montre le dynamisme de notre coopération entre le groupe Areva qui exploite les mines d'uranium du Niger et le gouvernement nigérien. Ce projet Irazer Tamesma Aïr couvre quand même une superficie très importante. C'est un élément important pour fixer d'abord les populations, leur donner en tout cas de quoi s'occuper, non seulement d'assurer leur propre sécurité alimentaire, mais d'avoir aussi des ressources, puisque pour une large part, il y a des recettes qui pourront parvenir donc de ces exploitations.
La convention qui a été signée l'a été pour le financement de la phase d'implantation même du projet, puisqu'il y a eu déjà deux années concluantes d'expérimentation. Chegou Maman est le chef du projet.
Dans la phase pilote, nous avons mis en valeur 120 hectares pour un objectif physique de 100 hectares. Nous sommes donc arrivés à 120%. Le projet Irazer a démontré quels sont les systèmes d'irrigation les les meilleures pour la région, quelles sont les cultures les meilleures pour la région et quels défis auxquels nous allons faire face, notamment l'organisation des producteurs, la bonne gestion et surtout la commercialisation. Pour la phase de développement, la phase d'implémentation, nous allons intervenir dans le RASER sur une vingtaine de sites, mais également nous allons peut-être faire jusqu'à 60 sites dans l'AIR, les petits jardins privés. Le tout, c'est 1000 hectares que nous visons pour les 5 ans.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Pour notre dossier, fin des travaux de la première session de la cour d'assises de Bamako. Le procureur général auprès de la cour d'appel a demandé une réforme en profondeur afin de rendre la justice malienne plus efficace. Il demande aussi la sensibilisation de la jeunesse vu le nombre d'infanticides qui se multiplient. Le point à Bamako avec Kassim Traoré.
Pendant cette session, sur les 150 dossiers, 7 ont été renvoyés, 147 jugés, soit un taux de 93%. Il y a eu 21 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, 15 assorties de sursis, 33 à la réclusion à temps, 15 à perpétuité, 11 peines de mort prononcées, dont 8 par contumace. Daniel Tessogué, procureur général près la cour d'appel de Bamako.
Il faut que les Maliens comprennent que si on veut que le Mali ait rang parmi les nations qui portent l'étiquette d'état de droit, il faut que la justice retrouve réellement son rang de troisième pouvoir, au sens propre du terme. C'est pourquoi j'ai dit assez des engueulades des parvenus, tous ceux qui pensent qu'il faut se suivre sur la justice pour faire carrière. Assez.
Cette session qui a duré un mois a permis 23 acquittements, 4 cas où l'action publique a été déclarée éteinte et 48 condamnations par contumace. Maître Alou Diara, représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali.
À aucun moment, les audiences n'ont été suspendues parce qu'il y a assises. Cette nouvelle phase de notre justice mérite d'être saluée et encouragée. Être juge dans nos pays est difficile, surtout au Mali. Parce qu'au Mali, aujourd'hui, les juges, c'est le cousin. Les juges, c'est la cousine. Les juges, c'est le camarade de grève. C'est facile d'accuser les juges. Mais celui qui n'a pas péché soit le premier à jeter la pierre.
Après cette première session de l'année, le procureur général près la cour d'appel de Bamako a fait deux propositions majeures. Daniel Tessogué.
Première proposition que je vais faire, c'est l'exclusion totale du ministre de la Justice et de l'architecture de la chaîne pénale. Pour être conforme aux normes internationales qui sont relatives à l'indépendance de la justice, l'une des formules pourrait être l'article 30 du Code de procédure pénale de France qui dit ceci. Le ministre de la Justice conduit la politique déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de l'application sur l'ensemble du territoire. Le second changement, c'est la nécessité d'encadrer strictement les constitutions du parti civil. Libre alors aux décideurs d'en tenir compte ou de ne pas tenir compte de ces propositions de réforme, mais qu'ils comprennent que de leur inertie à répondre aux besoins urgents et présents de la justice, de cette décrépitude de la justice par voie de conséquence et de l'État, ils répondront devant l'histoire.
À retenir que sur les plans financiers, les amendes prononcées s'élèvent à 56 millions de francs CFA, les dommages et intérêts à 33 millions de francs CFA et les remboursements à 65 millions de francs CFA. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et nous restons au Mali pour un reportage à Gao en cette période de Ramadan. Sur place, les prix de certains produits de première nécessité ont connu une forte hausse et la population espère que les commerçants feront un geste. Le reportage de notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Presque tous les produits de première nécessité connaissent une augmentation, comme le signale la Madame Essata Idrissa, ménagère à Farangiré, que nous avons rencontrée au marché de Sosokoira.
Vraiment, le marché est dur, c'est très dur, vraiment. La viande, c'est cher, l'igname aussi, c'est cher, les haricots aussi. Les marchés, quand même, c'est tellement cher.
Ainsi, le kilogramme de pommes de terre passe de 600 à 700 francs CFA, le kilogramme d'oignons de 150 à 300 francs, le kilogramme d'igname de 400 francs à 500 francs. Le carburant aussi connaît une augmentation. Il passe de 500 francs le litre à 650 francs à la pompe. Sauf l'huile vendue à 750 francs le litre, le paquet de lait à 1250 francs et le kilogramme de sucre à 500 francs n'ont pas connu de hausse. Au marché d'Amiens Boiteux, le kilogramme de viande sans os passe de 2000 francs à 3000 francs. Au marché de volaille, les prix varient entre 2500 et 4000 francs CFA. Pourquoi donc cette hausse des prix? Certains occupants des marchés de Gao nous expliquent les raisons.
On ne sait pas, nous les petits commerçants, là, nous, c'est les gens qui nous donnent. Si les gens augmentent, il faut qu'on augmente. Si les gens descendent, il faut qu'on descende.
Le marché est dur parce que là où on achète les marchandises pour amener à Gao, c'est là-bas qu'ils sont durs parce qu'on avait augmenté au transport. Le transport, c'est 20 000. C'est pour cela que le prix aussi, on avait ajouté un peu là-dessus pour avoir au moins ton argent.
Ce n'est pas la viande qui est chère, c'est les animaux qui sont chers. La viande qu'on voit à 3 000 francs là, ça c'est la viande de la chair seulement. C'est avec os qu'on vend ça à 2500. Tu as vu? Sinon, ce n'est pas la viande qui est chère, c'est le bœuf qui est cher.
En tout cas, en ce mois béni de Ramadan, les populations de Gao qui portent encore les séquelles de l'occupation invitent les commerçants à faire une réduction sur les prix, d'où cet appel de Mme Halimatou Cissé, ménagère au château.
La vie de Gao est très dure, hein. Vraiment. Les gens sont vraiment fatigués. Tout le monde crie, ça ne va pas partout. Tout avec le mois de carême, la fête qui s'approche, c'est pas facile.
Je demande vraiment d'avoir pitié à la population, vraiment de voir comment ils peuvent réduire le prix pour que la population puisse mieux vivre.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique et sur le 101.7 FM à Gao, sur la radio Ahadar Koïma. Rubrique santé pour terminer l'émission et nous évoquons le retour d'Ebola au Libéria. Un jeune homme de 17 ans est décédé de la fièvre hémorragique seulement 7 semaines après que l'Organisation mondiale de la santé eut déclaré l'éradication de la maladie dans le pays. Les autorités sanitaires tentent de déterminer comment le malade a contracté ce virus mortel. Félix Yepassi Zembrou.
Le jeune homme est décédé le 24 juin dans le comté de Marguibi, loin des frontières de la Guinée et de la Sierra Leone, les deux autres foyers de l'Ebola. Le ministre adjoint de la Santé, Tolbert Nyenswa, en charge de la lutte contre Ebola du Libéria, a fait savoir que ses services ignorent comment l'adolescent a contracté la maladie, mais une enquête a été ouverte et il a exhorté les populations à ne pas céder à la panique. Un message qui semble être tombé dans des oreilles de sourds, étant donné le traumatisme dans lequel baignent les populations. Confort Freeman, mère de 4 enfants, ne peut s'empêcher d'être inquiète.
Nous, les grandes personnes, nous pouvons prendre des précautions, mais les enfants ne peuvent pas en faire autant. Donc je me sens si diminuée ce matin. Nous mettons notre foi en Dieu. Avec lui, tout est possible.
Le virus Ebola a tué plus de 11 100 personnes depuis le début de l'épidémie à la fin de décembre 2013 au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone.
C'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation et la technique, Georges Léonard Sagno. Nous nous quittons en musique avec le franco-malien Mokobé, featuring les Nigérians de P-Square pour leur dernier clip, Getting Down. Bonne soirée et bonne nuit à tous.